Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler peut-être de l'apparence extérieure et des ouï-dire. Un thème assez vaste, mais je voudrais le traiter dans la continuité de ce que l'on a vu les dimanches précédents, et notamment il y a 15 jours avec Emmanuel sur les pensées, les choses qui occupent nos pensées, et un peu donc comme une mise en pratique, finalement, de ce que l'on pense souvent. Comment ça se traduit dans nos pensées, souvent les apparences extérieures et les ouï-dire. Je me suis basé sur plusieurs choses, mais notamment ce qui faisait avec l'Institut biblique, entre guillemets, avec nous, avec Daniel, il y a un an. On avait ce petit principe biblique pour la formation de disciples, la formation d'aide, les relations d'aide que Daniel nous avait passé comme lecture. Donc il y a quelques passages qui sont tirés de là. Mais avant, je vais vous demander d'incliner vos têtes pour prier. Dieu Père, nous voulons te prier pour te remettre ces moments, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous instruises, que tu nous montres quelle est ta volonté et que tu nous aides à mettre en pratique ta parole et ne pas l'écouter seulement, comme tu nous dis. Amen. Alors, il y a le verset clé de cette étude, c'est 1 Samuel 16, verset 7, qui nous dit « L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » L'homme regarde à l'apparence extérieure. Et c'est pour ça que très souvent, on va faire très attention à notre apparence extérieure et un peu moins à ce qui est dans notre cœur. Quand on demande à un recruteur, à un patron, de savoir sur combien de temps il faut pour déterminer si quelqu'un va faire l'affaire ou pas, très souvent il va dire que c'est les premières secondes qui suffisent, qui comptent, parce que la première impression qu'il va avoir est la plus importante. Et c'est ce que moi je forme les élèves à aller démarcher les entreprises pour de l'apprentissage, c'est la première chose qu'on leur dit. On dit, faites très attention à votre tenue vestimentaire, à la manière dont vous êtes habillé, coiffé, vous comportez, les premières paroles, parce que ce sont celles-là qui vont faire si vous êtes embauché ou pas derrière. Si vous avez réussi votre présentation, les 10 premières secondes, vous avez toutes les chances d'être embauché derrière. Par contre, si vous avez loupé, si vous pouvez dire tout ce que vous voulez derrière, vous n'arriverez pas à rattraper cette première impression qui est fausse. Et d'où l'importance d'être bien habillé, de bien se tenir, de bien se présenter, etc. Mais tout ça, c'est basé sur l'apparence extérieure. Et pour être un super candidat, si jamais votre apparence extérieure n'est pas bonne, ça ne passera pas. Parce que justement, c'est un homme qui est devant vous et ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il regarde au cœur et il ne regarde pas l'apparence extérieure, il ne regarde pas tout ce qui est autour de cela. Et nous, nous sommes appelés à avoir les pensées de Dieu, à fonctionner comme Dieu. C'est un témoignage. Et lorsque l'on croise de nombreuses personnes dans la rue, malheureusement, très souvent, on est tout de suite amené à se faire des réflexions. À se dire, voilà, celle-là, tu as vu un peu, je pense qu'elle doit être comme ceci, comme cela. Bon, celle-là, tu as vu la manière dont elle s'habille, je pense que c'est de la racaille ou autre. On a très facilement un catalogue qui est fait, des préjugés qui sont faits sur telle ou telle personne, juste en passant. Dans la Bible aussi, les hommes ont eu tendance à faire ce genre de préjugés. Par exemple, on voit que Saül, le premier roi d'Israël, était beau, et il était grand, il dépassait tous ses concitoyens d'une tête. Ça nous est dit en 1 Samuel 9, verset 2. Et c'est pour ça que le peuple avait choisi Saül voulait un roi qui lui ressemblait, ils ont choisi Saül parce qu'il était beau en apparence, il présentait bien, il faisait bien pour être un beau roi. Mais le peuple avait oublié de regarder qu'est-ce qui était dans le cœur de Saül, qu'est-ce qui était important. Et Dieu lui choisira après David. David était beau aussi, mais il était sûrement beaucoup moins grand et beaucoup plus petit et moins fort que Saül. Ça ne lui a pas empêché de remporter des victoires. On a Paul aussi. Paul, on dit qu'il était petit. était d'apparence chétive. Bon, il appartenait à l'élite du peuple, ce qu'il était très éduqué parmi les plus grands sages de l'époque. Mais ce n'était pas quelqu'un de très attirant. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour être un des plus grands apôtres que l'on ait eu. Jésus, il n'a pas aimé l'homme riche parce qu'il était riche. Mais il a aimé parce que l'homme riche venait dire qu'il avait suivi tous ses commandements depuis le début. Mais il a aimé surtout parce qu'il lui manquait une chose. Cette chose, c'était d'accepter de suivre son Seigneur. Le Seigneur a regardé au cœur de cet homme. Il n'a pas regardé l'apparence extérieure où tout le monde aurait pu dire, voilà, c'est un homme riche, il est bien, il a tout ce qu'il lui faut, et en plus, il a suivi tous les commandements depuis le début, c'est un homme bien. Mais il lui manquait une chose, et il n'a pas voulu suivre le Seigneur. Ainsi, il faut qu'on se garde de juger qui que ce soit sur les apparences extérieures, mais aussi sur les ouï-dire, sur ce qu'on a entendu. Combien de fois on entend quelqu'un qui dit d'une autre personne, ah, tu as entendu, tu sais, telle chose, etc. Et puis on se fait des préjugés, ah, tu sais, ceux qui viennent de cette cité-là, non, c'est pas possible que ce soit quelqu'un de bien. À l'époque, Jésus avait vécu la même chose, hein, parce que Jésus venait de la cité de Nazareth, entre guillemets, et quand quelqu'un vient voir Nathanaël dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Quel préjugé! Comme aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce qui peut venir de bien de Saint-Denis? C'est pas possible! C'est la même chose! Nathanaël devra se rendre compte en venant à Jésus, quand il va entendre Jésus, il va dire tout de suite, hein, mais tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël, il va devoir revenir sur son préjugé de ce qu'il avait dit. Il dit, rien ne peut venir de bien de Nazareth, mais il va devoir rectifier son jugement et dire, ben, quelque chose peut venir de bien. Eh bien, nous-mêmes, lorsqu'on voit quelqu'un qui vient d'une banlieue de Grigny ou de autre, eh bien, il faut avoir dans son cœur de dire, eh bien, quelque chose peut venir de bien aussi de là. Il faut aller voir plus loin que juste l'apparence, ce qu'on a entendu dire, etc. Et même si quelqu'un venait dans l'église, il faut avoir ce regard extérieur, ce regard d'amour. J'avais hésité à vous mettre une photo de prostituée à l'écran, je dis ça va choquer. Mais si un jour une prostituée rentre dans l'église, vous aurez une attitude choquée ou une attitude d'amour pour l'accueillir et voir qu'est-ce qui est dans son cœur? Je sais que pour beaucoup, moi le premier, sa première attitude, ce serait de s'accrocher et de dire, oui, qu'est-ce qu'elle vient faire là? On n'a pas tout de suite ce regard de dire tout de suite, bon, t'as vu comment elle est habillée, ça c'est sûr, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'église? Elle vient chercher quoi? De l'argent? Elle n'a qu'à retourner sur son trottoir ou autre? Non. On aurait tout de suite des préjugés. C'est juste basé sur l'apparence extérieure, sans même connaître cette personne, sans même discuter avec cette personne. On commencerait par regarder dehors ce qu'on voit et à rejeter finalement cette personne-là. Quel triste témoignage. Eh bien, pour que nos pensées soient conformes avec ce que le Seigneur a voulu, je vous propose que l'on étudie un passage de la sagesse de Salomon que l'on voit en 1 Roi 3, versets 16 à 28. Je vous propose de prendre vos Bibles en 1 Roi chapitre 3, versets 16 jusqu'au verset 28. Ce passage est le passage qui a caractériser Salomon dans sa sagesse. C'est au tout début de son règne, et il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour diriger son peuple. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Alors déjà, rien qu'en lisant le début de ce passage, imaginons un peu, devant le roi d'Israël, le jeune roi, se présentent deux prostituées qui ont fait des enfants toutes seules, sûrement de la prostitution, qui vivent seules, les femmes seules dans la maison, chacune ensemble. Il n'y a pas d'homme, c'est pas une famille, c'est vraiment pas l'image idéale de la famille qu'on pourrait voir. On voit déjà une image très dégradée de la famille. Et ces deux prostituées qui se présentent devant le roi, j'ai envie de dire qui osent se présenter devant le roi. Aujourd'hui, je dirais, ben, on aurait vite fait de les avoir mis dehors, même pas les avoir autorisées à venir de se présenter devant le roi ou devant le président ou autre. Vous n'imaginez pas présenter deux prostituées qui ont une banale histoire de dispute entre elles. Et en plus, elles viennent nous relater leur mauvaise vie, la manière dont elles vivent de manière dépravée, sans même chercher à remettre en question leur état de vie. Mais Salomon ne les reprend pas sur ça. Il écoute ce qu'ils disent, ce qu'elles disent, ces deux femmes. Et on continue. Donc, 3 jours après, après que l'une et l'autre, la première ait accouché, cette femme, l'autre, est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger est avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Donc, ce qu'on peut remarquer dans la parole du roi, il a pris le temps d'écouter. Au-delà de tous ses préjugés, au-delà de ce qu'il pouvait penser de l'apparence de ces jeunes femmes, de ce qu'elles pouvaient raconter, parce qu'au départ, ce qu'elles racontent, ce n'est pas quelque chose qui donne envie d'écouter plus loin. Il les écoute et il commence par leur dire, rappeler ce qu'elles viennent de dire l'une et l'autre. Il a écouté les deux parties. Les deux se réclament du fils vivant. Et il va apporter son jugement. Mais ce que la suite de l'histoire va nous dire, c'est que ce n'est pas un jugement. En fait, il va essayer de faire venir encore plus la parole, de les écouter davantage. Et le roi dit, ajoute, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Est-ce que chacun sait qu'est-ce qui va se passer? Eh bien alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, et c'est maintenant qu'il va faire son jugement, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Et tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Jusque-là. Mais c'est un passage qui est devenu proverbial de la sagesse de Salomon. Pensez à mettre à l'épreuve, finalement, ces deux femmes pour savoir quelle était la véritable mère de l'enfant. Et même à travers cette épreuve-là, il a dû écouter attentivement quelle était la réaction de chacune de ces femmes pour découvrir quelle était la véritable mère de l'enfant. Et la conséquence de cette attitude, de cette sagesse, de ce comportement, qui n'a pas regardé aux apparences extérieures, qui n'a pas regardé à ce qu'on pouvait dire ou penser, qui a écouté attentivement chacune des femmes, et qui est attendu pour rendre son jugement définitif. Cette apparence-là, cette attitude-là, a eu pour conséquence qu'on voyait, que tout le monde savait, que la sagesse de Dieu était en Salomon, était en lui, pour diriger dans ses jugements. Et dans notre apparence à nous, dans notre comportement, dans ce que nous faisons, dans notre manière de juger, de voir les apparences extérieures, de juger les ouï-dire, ben c'est dans cette manière-là que l'on pourra voir ou pas la sagesse de Dieu qui est en nous. Et la première des choses où il est dit pour voir si la sagesse de Dieu est en nous, c'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Au cours du dernier repas, le Seigneur achève ce moment en disant qu'il va nous donner un nouveau commandement. Pas un commandement qui existait déjà, un nouveau commandement. Et c'est bien un ordre, un commandement. Que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous aimiez l'un et l'autre. Et il ajoute, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En Jean 13, versets 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres comme je, comme le Seigneur nous a aimés. Et comment le Seigneur nous a-t-il aimés? Qui peut me dire comment le Seigneur nous a aimés?
Jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. Et à quelle mort? À la mort de la croix. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Eh bien, ce commandement est nouveau parce qu'avant, vous savez que dans les 10 commandements, il y avait un commandement similaire qui était... C'était... Quel commandement similaire? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur, lui, nous a donné un commandement nouveau, plus fort. Aime ton prochain comme je vous ai aimé. Mais il ajoute ce qui est très important, associé tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ce qu'on vient de voir avec Salomon, à travers sa manière de juger. Eh bien, tous ont compris que la sagesse de Dieu était en lui. Et le Seigneur, lui, nous dit que tout le monde connaîtra qu'on est des disciples du Seigneur si on a de l'amour les uns envers les autres, comme lui nous a aimés. Et ça, c'est une qualité importante. Avoir de l'amour les uns envers les autres, comme le Seigneur nous a aimés, eh bien, il suffit de voir un peu comment le Seigneur a agi dans les différentes situations. Et je vous propose de regarder dans votre Bible, on ne va pas le lire à haute voix, mais chacun va regarder dans ce passage, et puis vous allez me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Je vous propose de prendre Jean, chapitre 8, les 11 premiers versets. Jean, chapitre 8, les 11 premiers versets. Il s'agit encore ici d'une attitude qu'a eue le Seigneur vis-à-vis d'une femme de mauvaise vie, comme on a vu avec Salomon tout à l'heure. Je propose de survoler les 11 premiers versets, je vous laisse une, deux minutes pour regarder rapidement. Dans ce passage, on a des pharisiens qui veulent essayer de provoquer le Seigneur à l'erreur. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir comment le Seigneur traite cette femme. Et la première chose, ben, que a répondu le Seigneur aux accusateurs de cette femme? Qu'a dit le Seigneur? Que celui qui ne vous sent péché jette la première pierre contre elle. Mais avant de répondre, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Alors ça, c'est à la fin. Mais avant qu'il leur dise, il commence par faire quoi?
Écrire dans le sable.
Écrire dans le sable et simplement ne pas répondre. Il commence par les laisser parler et il ne répond pas. Il ne réagit pas immédiatement en opposition, comme très souvent on a tendance à faire. C'est-à-dire très souvent, nous, quand quelqu'un va accuser, on va tout de suite essayer de répliquer, de dire « Non, mais c'est faux, c'est pas ça, c'est pas la bonne solution, on veut donner son point de vue. » Non, le Seigneur, il attend. Il les laisse réfléchir par eux-mêmes, finalement. Il écrit dans le sable, ça peut avoir tendance à les agacer, certainement, et de dire « Mais... mince, pourquoi il ne répond pas? On attendait qu'il vienne nous dire un truc, il ne répond pas. »
Dans certains commentaires, ils disent que Jésus, Marc le dit, peut-être les commandements qui fait que les gens se retiraient parce qu'ils se sentaient accusés. On ne sait pas, mais j'ai déjà lu ça quelque part.
Oui.
Ils pouvaient écrire peut-être les lois, les commandements.
Voilà, là c'est vraiment la spéculation parce qu'il n'y a vraiment rien là-dessus qui ne nous le dit.
Il n'y a rien dessus, mais j'ai déjà
vu. Et il commence à partir après que le Seigneur leur ait posé la question. Et il est plus dit qu'il continue à écrire après avoir posé la question, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il écrivait. Et ce que je vous ai dit, c'est que c'est parce qu'ils ont entendu qu'ils ont été accusés dans leur conscience et pas par rapport à ce qu'ils veulent écrire. Ceci dit, ils connaissaient parfaitement la loi puisqu'ils venaient au Seigneur en disant ben, « Tu connais la loi et tu sais ce qu'il nous est donné de faire par rapport à de telles femmes. » Mais le Seigneur, il commence par écouter, laisser le silence, ne pas répondre immédiatement. Il temporise en quelque sorte et il attend. Et ensuite, avant d'accuser cette femme, de la juger, il commence par remettre en question les accusateurs. C'est bien beau de juger les personnes, mais est-ce que d'abord, avant, il ne faudrait pas se juger soi-même? C'est ça que le Seigneur dit. Avant d'accuser, de dire « Ah ben, tu as vu un tel ce qu'elle a fait? Tu as vu comment elle a habillé, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Mais est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas commis des péchés tout aussi graves? De toute façon, les péchés, ils sont tous les mêmes. C'est nous qui mettons cette hiérarchie de péchés. Ah, ça, c'est super grave. Et ça, c'est un peu moins grave. Ça, c'est un petit péché. Ça, c'est un péché mignon, etc. Mais ça, c'est nous qui faisons ça. Un péché est un péché. Ils sont tous pareils. Et donc, le Seigneur, ben, il ramène au même niveau. Il n'est pas en train de dire, ah oui, elle a fait un péché super grave. Et qui a fait un péché super grave ici? Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que celui qui est sans péché, sans aucun péché, il ne fait pas de hiérarchie dans les péchés. Il dit celui qui est sans aucun péché, eh bien, qu'il aille jeter contre elle la première pierre. Celui qui est sans péché. Et ce qui est choquant, entre guillemets, c'est qu'il faut du temps pour que... Pardon. Il faut du temps pour que tout le monde s'en aille. Il nous a dit que les premiers qui s'en vont, ce sont...
les plus âgés.
Alors on va dire, oui, ils ont plus péché que les plus jeunes. Quel orgueil des jeunes. Orgueil de la jeunesse, Jean-Baptiste. C'est les premiers qui réalisent tout de suite... et que c'est impossible. On a tous péché. Et donc, on ne peut pas juger cette femme-là sur son péché. Parce que nous avons tous péché. Et même les plus jeunes sont obligés de se dire, mais oui, mais même moi j'ai péché. Tout le monde a péché. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se retire. Et au final, Quel enseignement on peut en retenir? Eh bien, c'est ce que le Seigneur dit à la fin. Que conclut-il? Oui. Et lui, il conclut surtout, le plus important, je ne te condamne pas non plus. Personne n'a pu la condamner parce qu'ils étaient tous pécheurs. Le Seigneur, lui, n'était pas pécheur. C'était le seul qui aurait pu jeter la première pierre, puisque lui était sans péché. Mais lui dit, je ne te condamne pas non plus. Ce n'était pas ce qui était le plus important. Ce qui était le plus important, en accueillant cette femme qui était dans le péché, ce n'était pas de la condamner, de la juger, de lui jeter la première pierre. Ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de lui montrer le chemin pour revenir à Dieu, pour se repentir. Et ce chemin, il passe par l'amour, l'amour que le Seigneur lui témoigne. Il montre qu'il aime malgré le péché qu'elle a fait, malgré le fait qu'elle était dans le péché, eh bien, il aime. Il lui propose le chemin devant lui, devant elle. Il dit, voilà, va devant toi et ne pêche plus dorénavant. Je ne te condamne pas. Venant du Seigneur, c'est une anticipation de dire ben, qu'il lui avait pardonné. Il ne la condamne pas, ça revient à dire qu'il la pardonne. Parce que c'était le seul qui pouvait condamner, c'était lui le juge. Il ne la condamne pas parce qu'il anticipe, il sait qu'il l'a déjà corporé, il l'a aimé, il aime, il lui pardonne. Et il lui montre le chemin. Désormais, va et ne pêche plus. Il n'y a pas d'autre accusateur. Mais ce qui est important, c'est l'amour. Paul exhortait les croyants d'Éphèse à marcher avec toute humilité et douceur, avec longanimité. J'aime bien ce mot-là, qu'on a tendance un peu à oublier. On pourrait dire patience. Mais il y a un proverbe qui dit « patience et longueur de temps vont mieux que force ni que rage ». C'est pas un proverbe biblique, enfin je crois pas, mais... Bon, des fois, il y en a tellement qui sont basés sur des passages bibliques, mais celui-là, je ne crois pas. Mais c'est souvent, longanimité, c'est ce qui me fait penser à ce mot-là. Longueur, longanimité, c'est la longueur du temps, la patience dans le temps. Souvent, on dit certaines personnes manquent de patience, et là, on nous demande d'avoir de la longanimité, c'est-à-dire de la patience dans le temps qui dure. Ce n'est pas une patience juste à 5 minutes. Non, non, c'est une patience longue qui est dure. Et c'est cette patience-là qu'on nous demande, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Paul nous dit en Éphésiens 4, verset 2. Humilité, l'humilité de savoir que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Quand je vais voir l'autre personne, je vais avoir l'humilité de dire que moi, je suis pécheur. Et avant d'aller dire à la personne qui est en face de moi qu'elle est pécheur, que je me rappelle bien que moi, je suis pécheur. Moi, le premier. Et donc, si je vais voir l'autre personne, même si en apparence, eh ben, c'est une prostituée en apparence, qu'en apparence, dans ma tête, je me dis, elle est plus pécheur que moi. Non. Je dois aller la voir en me disant, moi, je suis pécheur. Et je dois aimer cette personne-là. Pour ce qu'elle est, une personne en perdition, qui a besoin qu'on lui montre le chemin. Et pas une personne à condamner. Ce n'est pas à moi de condamner. Je dois aller vers cette personne avec humilité et douceur, avec patience, parce que les choses ne se font pas toujours rapidement. Il faut savoir lui parler avec humilité et douceur, nous supportant l'un l'autre dans l'amour. Montrer de l'amour envers tous ceux qui nous côtoient. Même ceux qui semblent les pires. Même ceux qui viennent de Grigny, être plus proche, on va dire, à Guinette, mais je sais qu'il y en a qui habitent à Guinette, je peux pas choquer, mais de quel que soit l'endroit que la personne vienne, de quelle que soit la manière dont elle est habillée, que ce soit un jeune qui vienne avec le jean tout troué, le pantalon en dessous des fesses, etc., non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut le regarder avec amour et humilité, en disant que c'est une personne qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin qu'on lui montre le chemin, qu'on lui témoigne de l'amour pour pouvoir la sauver. Ça, c'est le premier élément très important. Et le deuxième, qu'on a déjà plus ou moins vu, c'est savoir écouter. En Jean 4, versets 1 à 26, bon, on ne va pas le lire parce que ça serait trop long, mais le temps passe. Mais c'est le passage de la femme samaritaine au puits, où le Seigneur va lui demander de l'eau à boire. Et il va avoir tout un échange, une discussion entre cette femme et le Seigneur qui va avoir lieu. Et ce que l'on peut constater dans cette discussion, c'est que le Seigneur écoute à chaque fois ce que dit la femme. Il prend le temps de discuter. Le Seigneur savait toute chose. Il n'avait pas besoin de demander à cette femme quoi que ce soit. Mais à chaque fois, il écoute. Et il reprend ce que a dit la femme. Il le reprend pour approfondir, pour aller plus loin. Il prend le temps d'écouter à chaque fois. Et par exemple, à un moment, le Seigneur lui dit, au verset 16, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et la femme répond, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus va lui dire à nouveau, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. » Et il va aller plus loin. « Car tu en as eu cinq. » Donc il montre qu'il sait très bien ce qu'il en était. Il savait ce qu'il disait. Quand il posait la question, ce n'était pas pour essayer de se renseigner. C'était pour la faire parler, pour lui faire dire les choses, pour qu'elle s'exprime. Et tout au long de cette discussion, ça va mettre en confiance cette femme-là. Et cette femme-là pourra témoigner après, parce que le Seigneur a su l'écouter et lui parler avec douceur. Et il dira maintenant, cette femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus lui devra lui dire, « Je le suis, moi qui te parle. » Et cette femme va le croire immédiatement, parce que le Seigneur aura pris le temps d'écouter et de lui répondre en fonction de ce qu'elle avait dit. Le Proverbe 18, verset 13 nous dit, « Répondre avant d'avoir entendu, c'est une folie et une confusion pour qui le fait. » Souvent, nous avons tendance à répondre avant d'avoir entendu. Très souvent, on s'arrête très souvent quand on corrige les enfants. On anticipe tout de suite ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ont fait, et on va tout de suite donner la réponse, on va les corriger, on va dire, parce que on devine ce qu'il en est. Mais on a tendance à agir de la même manière avec les adultes. Très souvent, on a tendance à vouloir répondre plus vite que la musique, et à vouloir dire ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait dû faire, avant même d'avoir écouté exactement ce qu'il en était. Et très souvent, si on écoute correctement, eh bien, on peut se rendre compte qu'on avait tort. Que finalement, la vérité n'était pas si évidente que ça. Que peut-être, surtout dans les conflits, eh bien, il est important d'écouter les deux parties parce que on n'est jamais sûr, si on n'entend qu'un son de cloche, on aura un jugement qui sera faussé. C'est ce qu'on a vu avec Salomon et ses deux femmes. Salomon prend le temps d'écouter les deux femmes et il reprend ce que chacune a dit. L'une a dit ça, l'autre a dit ça. Et il les met face à leurs contradictions. Mais il prend le temps d'écouter les deux. Il n'en entend pas juste une et il rend son jugement. On écoute les deux parties. Parce que répondre avant d'avoir entendu, c'est folie et confusion pour celui qui le fait. Et en conclusion, je prendrai Colossiens 4, verset 6. Prenez-le pour l'avoir sous les yeux. Parce que je pense que c'est un verset qui est très important. Colossiens, Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. De grâce. Assaisonnée de sel. Ce ne doit pas être des paroles amères. Il faut qu'il y ait un peu de sel. Afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Ça, c'est important. Jacques 1, verset 19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et les versets suivants de Jacques 19 nous indiquent que ce que l'homme doit être prompt à écouter, c'est d'abord à écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Savoir écouter notre prochain et lui indiquer la parole de Dieu que nous avons écoutée avant. Lui donner la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra lui montrer le bon chemin. Jean 7, verset 24, nous dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ne pas s'arrêter aux apparences, mais témoigner de l'amour et écouter son prochain. Que vos pensées soient ainsi à chaque fois que vous croisez quelqu'un. Ne pas juger selon l'apparence, mais juger avec grâce. Sachant que vous-même, vous avez bénéficié de la grâce de notre Seigneur qui vous a pardonné. Eh bien, regardez votre prochain avec grâce, assaisonné de sel, pour répondre par la parole de Dieu.